Le journal Olivia Cohen. Bonjour Olivia.
Bonjour Hervé, bonjour à toutes et à tous. Les opposants à la réforme des retraites font la grève de Noël, 20e jour de mobilisation. Le Premier ministre Édouard Philippe, lui, impose une trêve des confiseurs et renvoie les négociations au 7 janvier prochain. Les artistes, eux, restent solidaires du mouvement ces derniers jours. Deux tribunes signées par des écrivains, des cinéastes, des acteurs. La dernière, ce matin, en une de l'UMA. Vous entendrez dans ce journal l'un des signataires, l'auteur Gérard Mordillat. Dans le reste de l'actualité, quel avenir pour l'Algérie au lendemain de la mort du général Ahmed Gaïd Salah? L'Argentine en défaut de paiement virtuel. On vous explique ce que ça veut dire dans ce journal. Et puis, à quelques heures du réveillon de Noël, cet appel urgent des Restos du Cœur. Il leur manque 4 millions d'euros pour assurer leur distribution. Et oui, pas de trêve des confiseurs pour les bénévoles de l'association. Et puis la question du jour, Hervé, les 40 ans d'une certaine Ariane.
Oui, Ariane, la fusée, bien entendu, c'était il y a 40 ans son premier vol. Il y en a eu 250 depuis. Bilan et perspective. Nous serons en compagnie de la géographe Isabelle Soubès-Verger pour la question du jour.
Certains pensent au menu de leur réveillon de ce soir, d'autres veulent maintenir la flamme de la contestation pendant les fêtes. 20e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, des transports toujours perturbés et des opérations coup de poing un peu partout en France hier. Malgré tout, Matignon impose une trêve des confiseurs. L'information est tombée hier soir. Les négociations reprendront l'année prochaine. Le Premier ministre donne rendez-vous aux partenaires sociaux le 7 janvier. Stéphane Robert.
Édouard Philippe avait promis jeudi dernier un programme de travail et un calendrier pour poursuivre les discussions entamées sur la réforme des retraites. Les travaux avec les partenaires sociaux reprendront donc le mardi 7 janvier. Les organisations syndicales et patronales seront reçues par quatre ministres. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Agnès Buzyn en charge de la Santé, Laurent Pietraszewski, tout nouveau secrétaire d'État aux retraites, ainsi qu'Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Il s'agira de discuter, indique Matignon, des aménagements envisageables pour prendre en compte la pénibilité d'un certain nombre de professions et puis également de construire une stratégie globale pour le maintien dans l'emploi des seniors. Pour ce qui concerne l'équilibre financier du système, autrement dit la question de l'âge pivot à 64 ans, le Premier ministre indique qu'il va poursuivre les consultations et proposera une méthode de travail dans la semaine du 6 janvier. Il y aura également des discussions dans l'éducation nationale avec Jean-Michel Blanquer ainsi que dans l'enseignement supérieur avec Frédéric Vidal. Par ce communiqué, Matignon fait savoir que le gouvernement a l'intention de respecter ce qu'il est convenu d'appeler la trêve des confiseurs à l'occasion des fêtes de fin d'année et d'ignorer totalement la grève qui se poursuit en particulier dans les transports. Circuler, semble dire Édouard Philippe, à Sud, Force ouvrière et à la CGT, il n'y a rien à attendre du gouvernement avant 15 jours. Il fait sans doute le pari que d'ici là, le soutien des Français aura reculé et que le conflit se sera enlisé.
C'était les précisions de Stéphane Robert. Malgré cette volonté de renvoyer tout le monde à son réveillon, le soutien au mouvement se maintient, avec notamment à la une du journal L'Humanité ce matin, une vingtaine d'artistes, écrivains, comédiens, réalisateurs qui font part de leur solidarité avec les grévistes. C'est une tribune du même type que celle publiée ce week-end sur Mediapart et signée celle-là par une quarantaine de personnalités qui appelaient à soutenir financièrement les grévistes. L'écrivain Gérard Mordillat signe les deux. Cette guerre, c'est la nôtre, affirme-t-il.
Aujourd'hui, la vraie parole d'opposition appartient aux cinéastes, aux romanciers, aux dramaturges, aux poètes, aux peintres, aux chanteurs, aux musiciens, etc. Je veux dire, nous sommes tous dans cette société et nous ne sommes pas simplement en dehors de la société. Beaucoup d'entre nous travaillent sous le régime du salariat. C'est important et c'est nécessaire de bien faire comprendre que dans tous les aspects de la société, les citoyens sont engagés très fortement contre cette retraite qui est dénigrée par même ceux qui sont les économistes qui ont aidé M. Macron à constituer son programme économique. Et je crois que nous avons tous une dette immense vis-à-vis des grévistes. Ces personnes qui font grève d'abord se privent de salaire et ensuite défendent le bien commun. Et donc, je crois qu'il est nécessaire, utile, urgent que l'ensemble des citoyens manifestent leur adhésion à ce mouvement qui est un mouvement de défense qui nous concerne tous. Si ce n'est pas suffisant de le crier dans la rue, eh bien, il faut aussi que les intellectuels, entre guillemets, les artistes au sens large, s'expriment et le fassent entendre par d'autres voix. Si toutes les portes sont fermées, eh bien, on criera par les fenêtres.
L'écrivain Gérard Mordillat, joint par Céline Autain. Un deuil national de 3 jours décrété en Algérie au lendemain de la mort de l'homme fort du pays, le général Ahmed Gaïd Salah, victime d'une crise cardiaque. Un décès qui rebat les cartes dans le pays. Il était le soutien indéfectible du président Abdelaziz Bouteflika avant de le contraindre à la démission. C'était en avril dernier. Salah est ensuite devenu très vite impopulaire aux yeux des manifestants. Il incarnait la continuité du système. Sa dernière apparition publique, c'était il y a 4 jours, lors de la cérémonie d'investiture du président fraîchement élu Abdelmadjid Tebboune, un président donc qui a désormais la possibilité de satisfaire la soif de changement des étudiants qui manifestent aujourd'hui, comme chaque semaine depuis le début du mouvement il y a 10 mois, pour Missipsa Bouterfa, étudiant en comptabilité à l'université de Tizi Ouzou. Tebboune doit saisir cette opportunité.
Il avait un peu les mains ligotées. Il ne pouvait pas réellement entreprendre de changement sans passer par Gaïd Salah. Là, avec cette mort, on se dit que Tebboune est face à son destin. Car il a les cartes en main et s'il veut réellement entamer quelconque changement, je pense qu'il n'a plus le même poids sur ses épaules, il n'a plus cette prédominance de l'armée sur ses décisions. Il faut le rappeler, Tebboune vient d'être élu avec la même constitution qu'avait Bouteflika, la constitution de 2016, qui est une constitution finalement de dictateur. Il a tous les pleins pouvoirs dans ses mains. Donc si Tebboune veut réellement entamer un processus de changement, on ne voit plus trop ce qui pourrait entraver son chemin. S'il veut réellement partir dans le sens d'un dialogue, déjà commencer par la plus primordiale des conditions qui est la libération des détenus, je pense que s'il commence déjà par libérer les détenus, il aura la rue un peu plus souple envers ses positions et il commencera un réel dialogue.
Et les funérailles d'Ahmed Gaïd Salah sont prévues aujourd'hui. Elle est la dernière otage française. Cela fait 3 ans, jour pour jour, que Sophie Petronin est détenue par une organisation terroriste. La travailleuse humanitaire a été enlevée le 24 décembre 2016 dans le nord du Mali. Son fils est sans nouvelles d'elle depuis un mois. Ne pas avoir réussi à faire libérer ma mère, dit-il, c'est mon échec, celui d'Emmanuel Macron, c'est l'échec de tout le monde. Vous entendrez Sébastien Chabot-Petronin dans le journal de 7h30.
France Culture, il est 7h07, Olivia Cohen, et l'Argentine au bord d'une nouvelle crise financière majeure.
Le pays est en défaut de paiement virtuel, le président Alberto Fernandez le confirme. Pour éviter le même scénario qu'en 2001, des émeutes et un effondrement du pays, une loi d'urgence économique vient d'entrer en vigueur avec tout un tas de mesures. Hausse de la fiscalité pour les classes moyennes et supérieures, aide sociale pour les plus modestes, taxe de 30% sur les achats. Le but c'est de rassurer les marchés financiers et la population, et ça peut fonctionner. Selon le spécialiste Gaspard Estrada.
La situation est certes différente puisqu'il y a une majorité politique qui est solidement installée, ce qui n'était pas le cas en 2001. Et surtout, l'Argentine sait qu'elle ne pourra pas payer ses dettes en l'état. En revanche, elle vise, en prenant ces mesures, à faire preuve d'une volonté d'avoir une crédibilité vis-à-vis des marchés financiers, tout en ayant à l'esprit que lorsqu'on applique trop d'austérité, eh bien cela nuit à la croissance. Et donc, compte tenu de cette situation de crise, ce changement d'optique est plutôt le bienvenu. Et d'ailleurs, c'est pour cela que tant le FMI que Wall Street et les marchés financiers, mais aussi la population argentine, d'une manière générale, sont assez bienveillants vis-à-vis de ces mesures.
Gaspard Estrada, directeur de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Jair Bolsonaro, hospitalisé selon plusieurs médias locaux. Le président brésilien aurait fait une chute chez lui au palais de la Alvorada. Le leader d'extrême droite se serait cogné la tête en glissant dans une baignoire. Un accident a priori sans gravité. Au Chili, de graves violations des droits humains lors des récentes manifestations. C'est ce que dénonce un rapport publié ces dernières heures. L'Institut national des droits humains, un organisme indépendant, parle d'utilisation aveugle d'armes à feu, de torture et de traitements cruels ou dégradants menés par la police. Depuis le début du mouvement, en octobre, les affrontements entre manifestants et policiers ont fait 26 morts. En Cisjordanie, Bethléem s'apprête à accueillir ce soir et déjà même des centaines de chrétiens. Les fidèles se rassemblent pour célébrer la naissance du Christ lors d'une messe grandiose en la basilique de la Nativité, considérée comme le lieu de naissance de Jésus. Comme chaque année, le président palestinien Mahmoud Abbas y assistera. En France, la traditionnelle veillée à Notre-Dame de Paris, n'aura pas lieu. La messe est délocalisée en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, près du musée du Louvre. Les travaux pour rénover le monument détruit par un incendie reprendront fin janvier. Ce soir, vous aurez peut-être la chance, Hervé par exemple, ou vous, nos auditeurs, vous aurez peut-être la chance de fêter Noël avec vos proches devant une table garnie. L'esprit de Noël, c'est la famille, bien sûr, c'est aussi la générosité, penser aux autres et faire de bonnes actions. Eh bien, c'est le moment. Les Restos du Cœur lancent un appel. Il leur manque près de 4 millions d'euros pour faire face à la demande de repas d'ici janvier. Les stocks de nourriture diminuent à vue d'œil à Paris au centre de distribution du 18e arrondissement. On se serre déjà la ceinture, Jeanne Dossé.
Pour Anissa, 33 ans, les Restos du Cœur, c'est une fois par semaine pour les produits du quotidien et de première nécessité.
Du riz, des lentilles, des coquillettes.
Volontiers les lentilles, s'il vous plaît.
Du lait, des légumes, du poisson, des couches pour le petit dernier. Anissa repart avec un panier bien varié pour elle, son mari et leurs trois enfants. Elle fait le point avec Sabine, bénévole.
Peut-être pas pour la viande, mais en tout cas pour les produits de base. Ça vous tient à peu près toute la semaine quand même, hein, au niveau du riz, enfin des céréales.
Les matières premières, oui. Ça nous tient plus longtemps parce qu'on ne va pas manger tout d'un coup. Si sans les Restos du Cœur, déjà on est sur la fin du mois, c'est vraiment serré, mais... Sans ça, je ne sais pas ce qu'on ferait. Hein.
Rien qu'à Paris, les restos distribuent 2,5 millions de repas par an. Alors 3 à 4 millions d'euros de dons en moins au niveau national. Ça voudrait dire des centaines de milliers de repas qui ne pourraient pas être servis dans la capitale. Ça inquiète François Quadour, le responsable de la distribution, car dans son centre du 18e arrondissement, tout est déjà très compliqué.
Actuellement, c'est déjà ric-rac. On manque de lait deuxième âge. On manque de thon, de boîtes de conserve de légumes. Si ça continue, on va supprimer d'autres produits. Suivant le budget, ça peut être des couches, ça peut être du riz, des produits laitiers, ça peut être des œufs, ça, voilà.
Donc là, vous allez serrer les dents un peu dans les prochaines semaines, voir ce que ça va donner en fait.
Ah bah, on commence déjà à être ric-rac, on se restreint quoi. Donc on restreint les familles. C'est catastrophique, quoi, en gros.
Comme dans les 2000 autres Restos du Cœur de France, c'est avec incertitude que les bénévoles du 18e commenceront 2020, d'autant que les demandes augmentent. Dans ce centre du nord de Paris, 20 familles sont venues s'inscrire rien qu'hier. Elles s'ajoutent à 1200 foyers déjà bénéficiaires.
Et profitez-en pour aller faire un tour sur franceculture.fr. Un article sur la jeunesse des Restos du Cœur vous y attend. L'association a donc été fondée par Coluche. À l'origine, je cite, c'était une petite idée qui n'était pas censée durer. Et malheureusement, l'association a remporté un grand succès. Un mot de météo, y aura-t-il de la neige à Noël? Eh bien, pas sûr, car il fait doux. 4 départements restent toutefois en vigilance orange. Savoie et Haute-Savoie pour des risques d'avalanche. Et la Charente-Maritime et l'Ille-et-Vilaine pour des inondations. Et grosso modo, il pleut à peu près sur tout le pays, sauf de l'Île-de-France jusqu'au Pays de la Loire, à la Normandie, bon ça c'est du classique, et il ne pleut pas non plus sur la pointe sud-est, voilà, mais sinon il pleut quoi, pas de neige.